Alors moi je m'appelle Salah Mokran et voilà, je suis un des responsables de l'association Dacti Collectif et organisateur donc du festival Origine Contrôlée. Ah, ben, l'idée de départ, alors c'est né il y a 5 ans maintenant, et l'idée en fait de départ c'était de proposer une manifestation qui soit le prétexte un peu à mettre en avant les thèmes de qui sont liés à l'histoire et la mémoire de l'immigration. Donc je dirais que le thème qu'on décline de différentes façons, c'est histoire et mémoire de l'immigration, quoi. Et l'idée, elle est née tout simplement à partir du constat de la nécessité de travailler les questions qui sont liées à l'immigration sur un temps plus long, mais avec quand même une préoccupation importante qui est de le faire à partir de ce qui nous préoccupe aujourd'hui, quoi. C'est pas un festival d'historiens, en fait, voilà. Enfin, quand je dis c'est pas un festival d'historiens, on peut parfois inviter des historiens, c'est pas du tout péjoratif quand je disais ça. Ce que je veux dire, c'est que nous, on n'est pas des historiens. Donc, qu'est-ce qu'on met dedans? Ben, l'idée, c'est... les choses ont évolué aussi avec les années, donc il y a 5 ans... On avait commencé à travailler, alors dans le cadre du festival, mais aussi en dehors, sur un questionnement autour d'un continuum colonial ou pas, donc sur l'histoire coloniale, sur les coloniales et post-coloniales, et sur le lien qu'il y a entre les discriminations aujourd'hui des représentations ou des reproductions sociales qui sont liées à cette période-là. Ensuite, on a évolué aussi beaucoup vers une préoccupation qui était dans ces moments où les questions d'histoire et de mémoire sont très présentes, on peut parfois même dire à la mode. Donc de nous interroger sur quelles contributions les immigrés peuvent apporter à l'élaboration du récit, quoi, historique, comment ils peuvent, eux, participer à raconter cette histoire-là. Et à notre place, à notre modeste niveau, essayer de contribuer au fait que quand même les personnes concernées directement par cette histoire, même si le reste de la population est aussi bien sûr directement concernée, mais disons, les personnes qui sont entre guillemets l'objet de cette histoire puissent être partie prenante, quoi, de ce qu'il y a à raconter. Mais l'idée, en fait, c'est ça reste quand même une manifestation culturelle, c'est un festival. Tout l'enjeu pour nous, c'est de travailler sur comment on travaille la programmation artistique en lien avec les thèmes du festival. Là, par exemple, cette année, ça fait plus de 2 ans qu'on travaille autour du thème des chansons de l'immigration. Et à partir de ce thème-là, comme point de départ, on a pensé proposer une programmation artistique, sur le plan artistique, penser à passer une programmation de ce qui finalement peut aujourd'hui avoir un peu la même fonction que ces chanteurs-là en termes de chronique du quotidien, de prise de position. Donc c'est pour ça que le slam et le rap nous paraissent des illustrations intéressantes, quoi, du rôle des artistes. Voilà, et puis il y a un thème, un débat important pour nous cette année, qui est un de ceux auxquels on accorde le plus de place. C'est la question des anciens. Et finalement, ça a un lien important avec le thème des chansons, puisque ces anciens dont on parle ont été jeunes, et donc c'est leur musique qu'on propose de redécouvrir, quoi.
Et donc justement cette année c'est autour de la sortie de cet album Origine Contrôlée, entre autres.
L'album, en fait, c'est l'aboutissement parce que c'est aussi ça. Origine Contrôlée, c'est un événement, mais c'est tout un travail tout au long de l'année et des années. Donc là, en fait, l'album effectivement il arrive, il va sortir juste après le festival, mais finalement c'est l'aboutissement d'un travail qui est très lié à la dynamique d'Origine Contrôlée. Donc c'est un temps fort, effectivement. Enfin, c'est important parce qu'il y a l'aboutissement d'un travail. Donc il y aura l'album et puis aussi une publication qui va accompagner la démarche d'Origine Contrôlée cette année, quoi.
Mais ça, vous le faites à chaque édition du festival, il y a une revue qui sort
Voilà, depuis qu'on fait Origine Contrôlée, chaque année on fait une publication pour prolonger un petit peu, rendre compte des débats et prolonger un petit peu la réflexion. Ça nous permet de continuer à travailler d'ailleurs au-delà de l'événement, puisqu'on a un support. C'est vrai que bon, c'est quand même c'est un bon outil, parce que des semaines, des mois après le festival, on s'est rendu compte que bon, c'est un outil qui était utilisé, qui était repris, et qui provoquait encore des discussions, des rencontres. Bon, y a un petit objectif de pédagogie avec ça, quoi. Donc c'est pas forcément notre spécialité, mais on s'est pas mal attaché quoi, à avoir cet outil-là. Quoi.
Projet de disque Origine Contrôlée.
Ça dépasse un projet de disque. C'est la question, c'est plus pourquoi à un moment donné dans notre parcours musical on se décide d'aller aller plus loin dans cette idée de transmission qu'on pourra développer tout à l'heure, mais enfin, qui est quand même le cœur de ce projet. C'est notre rapport à cette culture là et à cette culture donc qui est celle de nos parents principalement, puisque nous sommes nés en France, à Toulouse, et que c'est une musique qui a résonné dans nos oreilles d'enfants comme une ambiance particulière, comme quelque chose qui nous rattache à quelque chose de solide quoi, et de protecteur disons, enfin voilà. Donc on a écouté toutes ces musiques, voilà, nos parents les ont écoutées, on a vécu avec, on a voyagé avec. On les a entendus en Algérie aussi dans nos différents voyages. Et puis à un moment donné, l'envie d'en enregistrer quelques-unes est arrivée parce qu'on s'est senti, face à une évidence dans notre parcours de musicien qui était de dire, nous qui avons fait principalement de la chanson française, du texte français sur des musiques rock ou reggae ou des influences occidentales avec quelques pointes de musique orientale mais très légères, on a vraiment éprouvé le besoin d'aborder ce répertoire-là. Alors on l'a abordé d'abord pour nous-mêmes, principalement pour nous-mêmes, c'est-à-dire pour les apprendre, pour les connaître, les comprendre, savoir les chanter. Donc on a fait du collectage, on a écouté beaucoup, beaucoup de choses. Il y avait des chansons qu'on connaissait, qu'on avait entendues, mais dont on n'avait pas les enregistrements, ce genre de choses-là. Donc on a recherché pendant des... Je veux dire, ça c'est plus dans notre vie d'adulte, on va dire, où à un moment donné, on a eu un rapport à cette musique-là, qui était un rapport volontaire. Avant, autant c'était une musique qui était présente comme une ambiance, autant à un moment donné, on a eu la démarche pour essayer de comprendre. Et parce que surtout, ça nous faisait beaucoup de bien de manière indéfinissable. On ne savait pas trop pourquoi. Donc, on a rassemblé un paquet de chansons. Et puis, à un moment donné, on s'est décidé à les apprendre. Et quand on s'est mis à les apprendre, on a compris beaucoup de choses. Mais comme des évidences. C'est-à-dire, on a compris la valeur qu'elles avaient, ces chansons, d'abord. Mm. Et on a compris donc qu'elles avaient cette valeur de parole. Et que c'était vachement important par rapport à une vision... entre guillemets, de non-expression de la première génération. Alors nous, on a fait à Toulouse, pendant 4 années, c'est la 4e année, un festival qu'on appelait Origine Contrôlée, qui était un festival, où des spectacles se produisaient, que ce soit de musique, de danse ou de théâtre. Le propos principal, c'était une quête de mémoire, donc mémoire d'immigration, mémoire de la colonisation. Donc il y a des débats dans ce festival, et donc toute une réflexion qu'on a mise en place et qui nous ont aidé vraiment à comprendre le sens profond de ces chansons, enfin pour nous, ce qu'elles représentaient, ce qu'elles peuvent représenter, c'est-à-dire la parole qui a été prise, donc une idée très forte de non-soumission. C'est-à-dire en gros... on a une vision de cette première génération d'immigrés, de travailleurs immigrés, qui est une vision quelquefois caricaturale. On a pu l'avoir nous-mêmes, cette vision-là. C'est-à-dire, c'est vrai qu'ils sont invisibles, qu'ils ont été invisibles. C'est vrai qu'ils sont culturellement polis, on dira. C'est-à-dire, mais ils n'étaient pas soumis. Et c'est très important de le constater au travers de ces chansons-là, parce que ces chansons expriment leur univers, la vie, leur souffrance, leur... leur sens de l'humour et des tas de choses comme ça qui démontrent bien qu'au fond, ils n'acceptaient pas. Donc ils n'étaient pas soumis. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il n'y avait pas ce fatalisme-là qui était de dire c'est comme ça. Non. Mm-hmm. Puisqu'ils étaient capables de produire des chansons comme ça et qu'un public était là pour les entendre et que ça devait leur faire beaucoup de bien. Enfin, c'est évident que ça leur faisait beaucoup de bien. Mm-hmm. Donc voilà la démarche. La démarche, c'est de se réapproprier ces chansons-là et de mettre et d'appuyer très fort, comme on aime bien le faire, sur le sens. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a la partie musicale, la partie vivante, la partie expressive, et il y a la partie de sens qui est incontestable, évidente et magnifique.
Mais en fait, on a beaucoup confondu l'invisibilité sociale avec une absence politique, quoi. Et donc, nous, c'est vrai qu'on est attaché à faire ce travail-là parce que le problème, c'est que c'est pas tellement le silence, c'est plutôt le problème d'une société qui n'entend pas plutôt que le problème du silence. Bon, après, il y a quand même un gros problème aussi avec... Je veux dire, la persistance de cette représentation, elle a aussi beaucoup servi les intérêts de certains intérêts syndicaux, certains intérêts de la gauche aussi. Donc, c'était quand même plus pratique de défendre les immigrés que de les laisser se défendre. Voilà, alors ça non plus, voilà, je veux pas non plus, c'est pas, il s'agit pas de faire des procès d'intention, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est aussi ces éléments-là, par exemple, bon, enfin, dans l'histoire ouvrière, dans les mouvements ouvriers des années 70, les syndicats qui, d'autres fois, ont peut-être fait leur travail, mais en tout cas, ont souvent quand même eu des problèmes à considérer que les travailleurs immigrés étaient des personnes autonomes, ont parfois confondu, pas voulu voir la singularité de certaines revendications des travailleurs immigrés. Donc, mais nous, quand on a envie qu'on se réinterroge là-dessus, c'est pas pour les syndicalistes se fouettent le dos, c'est pas ça notre problème. Notre problème, c'est que pour avancer dans l'idée de l'égalité, y compris parfois des personnes qu'on peut considérer comme des alliés, on est obligé quand même de faire le point avec pour pouvoir avancer et puis améliorer les combats et en faire des combats communs si possible, quoi.
Et alors, tout à l'heure et hier a été projeté donc un film sur les Scopitones. Et tu disais qu'il y avait un problème d'accès énorme à ces archives-là. Est-ce que tu pourrais m'en dire plus ?
Bon, alors, le gros problème qu'il y a... un des gros problèmes qu'il y a sur la question de travailler l'histoire de l'immigration, c'est effectivement la question des archives. En fait, ce dont on se rend compte, c'est qu'au-delà, il y a des discours publics. Là, il y a la Cité nationale de l'immigration donc, qui vient d'ouvrir. Il y a les grands discours publics sur la nécessité de travailler l'histoire de l'immigration. Mais on voit bien, en fait, que derrière, ce qui est quand même souvent le témoin d'une volonté, les moyens ne suivent pas. Et donc, il y a toute une matière... sur le plan culturel, sur ces questions de mémoire, la question culturelle, elle est déterminante. Parce que si on s'interroge sur quels sont les objets et les moyens de raconter une histoire, pour l'immigration qui est fait partie des classes populaires, quoi. Si on s'interroge sur les moyens de raconter cette histoire, l'immigration, c'est quand même une immigration ouvrière. Et donc, c'est pas forcément à travers les objets qui nous restent de cette période, de cette histoire-là qu'on peut raconter une histoire, mais plutôt à travers des expressions, à travers des expressions artistiques notamment. Dans le cas de l'immigration, l'oralité a un rôle déterminant, très très important. Et donc il y a quand même quelques petits trésors comme ça, comme Cisco Piton. Mais on a un exemple, par exemple, pour donner un exemple de la difficulté, dans les années 80, on a eu pendant de longues années une émission consacrée à l'immigration qui s'appelait Mosaïque à la télévision. Bon, donc là, c'est une émission qui est passée à la télévision, qui a été produite par le Fonds d'Action Sociale, qui est un établissement public. On ne peut pas dire qu'on ne sait pas ce que c'est, qu'on ne sait pas où c'est. On sait ce que c'est, on sait où c'est. Mais il faut savoir que jusqu'à ce jour, les archives de l'émission Mosaïque n'ont pas été traitées, n'ont pas été numérisées et n'ont pas été versées à l'INA. Donc ça veut dire qu'elles ne sont pas accessibles au grand public. Et voilà, concrètement, ça veut dire qu'aujourd'hui, elles sont dans un local. Ce sont des cassettes qui sont en train de s'abîmer. Et là, on a un problème manifeste de de quels moyens on se donne et de l'attention qu'on porte aux traces de cette histoire-là, par exemple.
Qui aurait pu être un déclencheur?
Je pense qu'il y a beaucoup de choses. Il y a certainement notre... Il y a des raisons personnelles, individuelles, qui sont, à mon avis, peut-être, de manière un peu schématique, le fait d'être père, qui fait qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui se pose différemment dans les transmissions. On est dans une autre notion, donc ça, c'est, à mon avis, un élément important. Ensuite, il y a le contexte politique, bien sûr. Donc forcément, le contexte...
Il y a une urgence aujourd'hui
Il y a une urgence. L'urgence a toujours existé. Mais l'urgence, elle est là dans la mesure où... c'était là dans la mesure où, à un moment donné, c'est un déclencheur qui est un prétexte, mais il y a les élections présidentielles, et il y a notamment, à un moment donné, ce simili-débat sur l'identité qui se pose. On a toujours, dès qu'il y a eu des formes de débat public comme ça, sur cette question-là, réagi d'une manière ou d'une autre. Parce que ça s'est déjà posé, avec le bruit, l'odeur, ça s'est déjà posé à nous. Et on a répondu à chaque fois qu'on a pu, à notre façon. Et là, quand ça s'est posé, ça nous a semblé une évidence de répondre de cette manière-là. C'était de dire à un moment donné, on pose cette question d'identité nationale comme si le débat était clos. En gros, on dit, l'identité, elle est figée, c'est ça et pas autre chose. Quand on le dit d'emblée, on exclut toute une partie de la population. D'un coup, on a une phrase, on l'exclut complètement d'une discussion. Et c'est particulièrement, injuste, ça c'est sûr, mais particulièrement, inutile, puisqu'il y a quelque chose d'inexorable dans l'évolution d'identité d'un pays, d'une société. Donc, peuvent dire ce qu'ils veulent. Et à un moment donné, cette question d'identité, ce débat-là ne pourra pas se faire sans nous. Je dis nous, ceux qui avons une histoire particulière en rapport à des flux migratoires, en rapport à l'histoire postcoloniale et tout ça et tout. Enfin, et d'autres aussi, je veux dire, on n'est pas les seuls. Mais c'est pas possible de le faire sans nous. C'est pas possible de nous exclure de ce débat-là. Donc, à un moment donné, notre première réponse était de faire la chanson de Simon Azem qui s'appelle La carte de résidence. À un moment donné, tu as un chanteur travailleur immigré qui a écrit énormément de chansons magnifiques, un fabuliste et tout, qui a écrit une chanson qui est moitié français, moitié en français, moitié en kabyle. Et cette chanson, elle parle de la carte de résidence, elle parle des papiers. Il a écrit ça dans les années 60, fin des années 60. Donc, on est déjà dans un truc qu'on dit à un moment donné, de toute façon, c'est toujours le même débat qui revient. Il ne faut pas croire que nous, on n'est pas dans ce débat. On y est. On y est, nous, aujourd'hui, parce que nous, on est des enfants d'ici. Et ce qu'on veut dire surtout, juste par rapport à ça, c'est que, par rapport à cette question d'identité, ce qu'on veut dire surtout, que ces chansons-là, qu'ils le veuillent ou non, qu'on le veuille ou non, c'est des chansons de France. C'est-à-dire que c'est peut-être pas de la chanson française, mais c'est de la chanson de France. Voilà. C'est très important, parce qu'elles ont été écrites ici, dans l'histoire de ce pays.
Ouais. Si je te demandais une définition de l'identité, tu mettrais quoi?
L'identité, pour moi, c'est... l'identité, c'est d'abord chacun. L'identité, c'est qui je suis. Donc, c'est pas forcément
collectif.
Voilà, c'est pas forcément quelque chose de collectif. Ça démarre de cette volonté de savoir qui je suis. À partir du moment où il y a cette possibilité de démarche, il y a une possibilité de définition à un moment donné, mais elle bougera de toute façon. Donc cette définition-là n'est valable que l'espace de quelques semaines à la limite, quoi. Donc pour moi, l'identité, c'est l'autonomie, c'est l'émancipation. Voilà, c'est une certaine notion de liberté quand même, par rapport à soi-même, c'est-à-dire de pouvoir se poser la question. C'est-à-dire qu'en fait, les réponses, elles sont amenées par les gens qui vivent ce métissage-là. Moi, j'aime bien dire que nous, on est des métis psychologiques. Mes parents, ils sont tous les deux quasiment du même village. Donc, c'est sûr, je ne suis pas métis physique, mais dans ma tronche, je suis métis. Enfin, tu vois, c'est qu'en gros, j'ai grandi avec cette complexité-là et donc, comme beaucoup de gens dans ce pays, pour des tas de raisons différentes, on fait partie de ceux qui portons cette réflexion, quoi. Voilà. Donc pour moi, l'identité, c'est ça. Je dirais que derrière l'identité, je mettrais le mot autonomie, quoi. Ça me semble bien.
Ce qu'on nous annonce, ça va dans un bon sens. Faut pas prévoir à l'avance avant d'avoir la réponse. Avant d'avoir la réponse au sujet de la résidence. Il a warum des boutiques. La flamme de psychique. Qu'on laisse de les conférences. Qu'on laisse de les conférences pour étudier tous les sens. Le racisme et le chômage. Heureusement qu'il y a des sages. C'est le prestige de la France. C'est le prestige de la France. C'est la raison d'espérance. Le chômage, l'immigration. Et après les élections, on attend qu'on nous annonce. On attend qu'on nous annonce. Chaque fois ça recommence. Mais il a la différence. La différence. La résidence. Quand il est dur, c'est pour les migrés, bien sûr. Avec la conscience pure, dévouement et des souffrances. Dévouement et des souffrances, ça mérite la récompense. Il faut subir les conséquences. Il faut subir les conséquences, il n'y aura plus de ruminance. Et tout ça me fera du bien de retourner chez les miens. Je suis un Africain, le soleil en permanence.
Le soleil en permanence.
Le soleil en permanence. Pour moi, ça a de l'importance.
C'est un trop de l'aïti. Je découle ta moule, t'es fertile. Je rappelle des filles, t'es fertile. J'ai de mener un mec d'avance. Et de mener un mec d'avance. Jusqu'à la fin de l'existence.
Mesdemoiselles, messieurs, si je dois vous dire adieu, sachez bien que mes aïeux ont combattu pour la France. Ont combattu pour la France, bien avant la résidence.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, si nous devons vous dire adieu, sachez bien que nos aïeux ont combattu pour la France.
Ont combattu pour la France, bien avant la résidence.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, si nous devons vous dire adieu, sachez bien que nos aïeux ont combattu pour la France. Sachez bien que nos aïeux ont combattu pour la France. Sachez bien que nos aïeux ont combattu pour la France. Sachez bien que nos aïeux ont combattu.
combattu pour la France. Sachez bien que nos aïeux ont combattu pour la France.
Bien avant la résidence.
Notre travail au tactique collectif, donc c'est avant tout une structure dont l'objectif est de produire de l'action culturelle. Donc au quotidien, c'est beaucoup de travail. Dans le concret, c'est beaucoup de travail sur cette matière-là, en lien avec des artistes, avec des acteurs culturels, avec des associations culturelles. Donc c'est beaucoup ce travail-là. C'est aussi l'idée de produire nous-mêmes donc nos propres événements, nos propres outils, dans une certaine mesure aussi parfois nos propres médias quand on le peut. Mais la toile de fond, c'est assez clairement donc une tradition politique qui est héritée de la revendication de l'égalité des droits, de la nécessité de l'autonomie de l'action des personnes concernées par un problème. Enfin, bon, je ne sais pas si j'ai besoin de préciser que autonomie ne veut pas forcément dire sectarisme. Ça n'a absolument rien à voir, mais c'est cette idée-là qui me paraît. On travaille avec beaucoup de gens, hein, même très, très ouverts, des fois trop. Voilà, et après, donc, pour revenir vers l'action culturelle, en même temps, voilà, c'est d'arriver à trouver l'équilibre quand même, à ne pas non plus tomber dans le piège de la réduction de l'expression artistique à une expression politique, quoi. Parce que à un moment donné, une musique, on l'écoute aussi parce qu'on l'aime, parce qu'elle nous touche, pour le son, mais pas seulement pour ce qu'il dit. Et puis des fois, on peut adorer une chanson d'amour. Finalement, je pense que ce qui pourrait résumer le mieux, en tout cas, notre intention, je sais pas si on y arrive toujours, mais c'est de faire un travail d'éducation populaire, quoi, en fait. Voilà.
L'ancrage en France, en fait, de ces auteurs et de ces chanteurs,
ouais.
Et donc de ces chansons. Il y a donc un côté, pareil, un truc aussi plombant que l'identité, le patrimoine, quoi. Ouais. Ça fait partie du patrimoine français, de son histoire, etc.
Ouais, c'est-à-dire que on vit dans un pays qui a du mal à aborder ces choses-là, qui a du mal à lever le voile et qui a du mal surtout à avoir de l'humilité parce qu'il y a un sentiment très fort de supériorité culturelle dans le fait d'être français, alors que finalement, bon voilà, c'est pas mieux qu'être algérien, sénégalais ou basque ou allemand. Mais c'est pas moins bien non plus, mais je veux dire, donc il y a ce côté-là qui fait que c'est très difficile de poser ce genre de. D'écrire cette histoire-là, quoi. Parce qu'il faudrait, tu vois, souvent. C'est pour ça que cette quête de mémoire, cette quête d'histoire, pour nous, elle est importante. Puisqu'on nous donne pas les éléments dans notre éducation, dans notre instruction, pour les avoir, donc on est obligé d'aller les chercher nous-mêmes. Et quand on va les chercher nous-mêmes, on dit, ouais, mais on veut pas s'excuser, mais nous, on s'en fout de vos excuses. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est pas. Quand on entend ça, c'est une volonté de plus d'humilier, comme si on demandait des excuses. Enfin, je veux dire, à un moment donné, c'est absolument rien à voir. On veut la vérité, on y a droit, on va la chercher. Donc, ces chansons-là font partie de cette vérité-là. Elles vont aider à comprendre. Et puis, c'est de la musique. Donc, la musique, c'est l'avantage de la musique depuis la nuit des temps. Elle se transmet. De toute façon, elle se transmet. Elle se transmettra. Donc nous, on est dans cette logique-là, et donc c'est ce que j'appelle moi. Alors ça, c'est très difficile en France parce qu'il y a un rapport en France, je dirais, à la musique originelle qui est un peu difficile, quoi, parce que c'est l'histoire de ce pays, hein, c'est-à-dire c'est ringardisé, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce qu'on appelle le folklore entre guillemets, quoi, c'est ringardisé. On se dit ça fait pas bien, quoi. Bon, c'est l'histoire du centralisme, c'est l'histoire de la République, quoi. Donc c'est très intéressant pour nous de ramener ça et de s'adosser à ça et de se rendre compte qu'il y a vachement de gens finalement qui s'y retrouvent dans cette notion d'originel et d'universel. Même si c'est notre histoire à nous venant d'Algérie, notre histoire qui passe par l'Algérie, beaucoup de gens qui peuvent s'y retrouver dans l'émotion, dans l'universel que peuvent porter ces chansons-là. Et dans le discours même, le sens même de, je veux dire, le sens même de ces chansons-là, c'est-à-dire de la non-acceptation, le fait de dire je raconte, je m'exprime, à partir de là je vais mieux, quoi. Donc voilà, bon, je dirais que on aime bien cette idée qu'on participe un peu à l'écriture de cette histoire qui n'est pas faite, quoi. Qui n'est pas écrite en tout cas, on participe à notre façon, par petits bouts, par le biais culturel, puisque c'est notre élément d'expression, d'action, de survie, quoi.
Juste une parenthèse, c'est une coïncidence que, parce que la chanson La Résidence vient d'être prise aussi par le FD.
C'est une coïncidence, ouais. Ouais, c'est une coïncidence parce que ça fait partie de nos histoires. De notre histoire commune, quoi. Ouais. Donc alors après, je sais pas dans quelle. Je dirais que nous, on avait besoin de. On fait La Résidence. Et on avait besoin de la mettre dans un contexte de sens. C'est-à-dire, c'est ça qui est intéressant pour nous à un moment donné. C'est vrai qu'on se régale à faire ces chansons-là. C'est vrai qu'on se régale à les interpréter, à les jouer et à l'idée de faire danser les gens dessus. Mais pour nous, c'est pas suffisant. Pour nous, ce qui est important, c'est mettre le sens. Donc, que ça s'appelle origine contrôlée, c'est très important pour nous. Bon, on y met du sens, on y voit ce qu'on veut. On peut le voir un peu de manière négative, l'idée de contrôle. Mais pour nous, c'est surtout l'idée de maîtrise, quoi. Parce que pour nous, ce qui est important, c'est aussi de lutter contre l'identité fantasmée. C'est-à-dire une idée du bled qui serait le paradis sur Terre ou Mars ou je sais pas quoi, quelque chose qui n'existe pas vraiment. Le bled, c'est le bled, quoi. Il y a plein de belles choses, magnifiques, mais il y a des choses terribles aussi. Mais comme ici, il n'y a pas de mystification sur l'identité à avoir. Donc ça, c'est ce que j'appelle moi l'identité fantasmée. Donc on essaie d'aller contre ça. Et le fait de mettre dans le sens, pour nous, c'est voilà, bon, on ne sait pas si ça va fonctionner. Mais en tout cas, on sait que c'est dans ce sens-là qu'on a envie que le message passe, quoi. En disant, c'est une parole en or. C'est une parole qui est importante. Elle a été prise et il faut le dire et le redire tant qu'il faut. Et arrêter de penser que nos parents sont des gens. Parce que t'as plein d'amalgames de ce genre. On pense que parce qu'ils n'étaient pas instruits, ils ne seraient pas cultivés. Enfin, tu vois, il y a des amalgames comme ça qui sont vraiment redoutables. Ils étaient peut-être analphabètes, illettrés, mais ils étaient cultivés. C'est pas la même chose. Non mais c'est un amalgame. Ouais, voilà, tu vois, c'est l'amalgame entre l'instruction et la culture. Donc c'est et ça remonte à loin, puisque ça remonte à l'histoire coloniale, clairement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on nie la parole tellement qu'on nie la culture. Et, tu vois, donc.
C'est ça en fait, c'est cette histoire coloniale qui passe pas du tout assumée.
Ouais. C'est cette histoire coloniale qui n'est pas du tout assumée. Ces choses qui sont pas dites. On n'explique pas pourquoi ces mouvements migratoires ont lieu, ces flux migratoires ont lieu, pourquoi, pour quelle raison, pourquoi telle région plus que telle autre région d'Algérie ou du Maroc. Est-ce qu'il y a derrière tout ça des spoliations coloniales qui ont privé les gens de ressources et qui les ont obligés à bouger, quoi. Donc, et c'est pas pour ça que les gens ont bougé sans toute leur culture et sans toute leur force expressive. Seulement, on l'a tellement nié qu'à un moment donné, ben, ils se sont tournés vers vers eux-mêmes, quoi, quelque part.
Et alors, comment vous avez choisi les chansons et surtout les auteurs?
On est parti des gens qu'on connaissait, on est parti des gens qui nous touchaient directement, effectivement, c'est-à-dire en gros ceux qui étaient écoutés par notre père, Hakim et moi, donc. Donc principalement son plus grand, celui dont il est le plus fan, c'est Sima Nazem. Donc il y en a deux. Ensuite il y a Asnaoui, qui est un auteur qui lui a écrit des chansons dans les années 40, qui est arrivé dans les années 30 en France, donc ça commence quand même à faire un moment, ça remonte. il a écrit 70 chansons, pas plus, mais toutes magnifiques. Ensuite, Dahman, Al-Halashi, parce que lui, c'est un peu le. Bon, voilà. C'est l'Algérois, dans toute sa splendeur, c'est-à-dire exprès, sa façon de parler, toute sa gouaille et tout ça. Et ça, ça me rappelle vraiment des souvenirs de vacances et d'enfance. Et, voilà. Ensuite, il y a des plus récents comme Jamel Alain, parce que ça, c'est notre enfance aussi. Ça fait partie des artistes qu'on a découvert et qu'on a vu en fait, sur scène. C'est le seul avec. Idir, par exemple, qu'on a pu voir. Bon, il y a des gens comme. Il y a aussi des chansons qui sont des chansons dont on se rappelle aussi, comme ça, qu'on n'a même jamais entendu un enregistrement, comme une chanson comme Enfesque. Je n'ai jamais entendu l'enregistrement, je l'ai toujours entendu chanter, un peu à la. Comment dire, à l'Algérienne, on n'entend pas des mains comme ça, tu vois. Donc celle-là, on l'a faite pour cette raison-là. Toujours des dimensions affectives et par rapport à l'auteur, et après aller chercher de la chanson qui peut, voilà, qui peut le mieux s'adapter à une dynamique musicale autre, parce que l'idée c'est quand même ça, c'est l'appropriation vraiment de ces musiques. Alors on s'applique, on fait bien le texte, bien la mélodie de voix, mais la musique change complètement. On a envie de ramener, notamment parce que tous les musiciens du groupe, à part Rachid, ce n'est l'histoire d'aucun d'eux, précisément. Et comme nous, notre volonté, c'est de faire parler l'universel de ces chansons-là, c'est cette démarche-là qui nous intéresse. C'était pas d'aller faire une version orientale de ces chansons-là.
Pas à l'identique.
Voilà, et c'est surtout d'être la couleur identique. Donc on a fait beaucoup d'accordéons, deux accordéonistes qui sont plutôt basques et aveyronnais. Donc à un moment donné, c'est Serge Lopez, qui est plutôt guitariste plutôt flamenco, Manu, qui est plutôt une culture blues-rock. Enfin voilà, des histoires comme ça qui ont fait que ça donne une vraie, un vrai élan spécifique, actuel. Et ça a fonctionné, puisqu'on l'a fait entièrement en live, en 3 jours de studio. Et donc c'était prise de risque maximum pour un résultat optimum.
Mais quand même, le choix des textes, vous avez une trame est-ce qu'il y a une cohérence de thème ou...
Non, on a essayé qu'il y ait un peu un panel de tous les sentiments exprimés. C'est-à-dire, t'as quelque chose, on aurait pu, par exemple, on voulait pas avoir que des chansons sur l'exil.
Ouais.
Et il en faut, et c'est là. Mais il y en a pas mal, donc on ne voulait pas que des chansons là-dessus. Donc on en a choisi une qui s'appelle Intes Medies, qui est une chanson où c'est plus. C'est le décalage qu'on trouve intéressant dans le point de vue de l'artiste, c'est-à-dire que l'artiste, il écrit une chanson à Paris, c'est Hasnaoui, il écrit une chanson à Paris, Intes Medies, ça veut dire dites-lui de revenir. Donc il fait parler une femme, sa mère, sa sœur, ou sa cousine, on ne sait pas vraiment, mais donc il suppose le manque, quoi. Il veut manquer, donc ça, c'est des sentiments qui sont complexes, et ça nous a trouvé assez intéressant. Après, on a été choisir une chanson sur une chanson de Mazouni qui s'appelle Adieu la France, bonjour l'Algérie, où là, d'une manière un peu décalée, puisqu'il chante le refrain en français, donc il met un petit peu d'humour, il dit à quel point s'il devait partir d'ici, il n'a pas le choix, il doit partir, mais en même temps, ça le rend triste. Combien j'ai pleuré, c'est-à-dire de France, pour rentrer en Algérie. Là, il dit je vais retrouver mon Algérie chérie. Mais je pleure beaucoup parce que voilà. Donc ça c'est ce sentiment mitigé quoi. Chanson comme une fesse où ça parle là plus particulièrement de l'exil, où là c'est les gens qui parlent entre eux et que dans un sentiment de fête et de légèreté disent laissez-le partir, bon la place Pigalle lui a tourné la tête, maintenant ça y est. Il ne reviendra plus. Après choisi les chansons de Simon Azem. Ça dépend. Voilà, on a essayé d'avoir un panel d'expressions. Voilà. Vraiment, il y a vraiment de tout. Hein, ça parle de tout. Alors bon, c'est une alchimie entre ce qui nous semblait mélodiquement le plus adaptable, c'est-à-dire qu'en gros on essayait des choses et des fois on n'arrivait pas à les faire. Donc on laissait tomber très vite et on a essayé d'aller vers les choses aussi très évidentes qui fonctionnaient de manière naturelle dans une idée un peu comme ça de, d'urgence, un peu comme ça. D'ailleurs, il faut qu'on les avance. Il ne faut pas qu'on, qu'on se torture à les faire vivre dans notre état d'esprit. Et on n'a pas eu trop à le faire. On est passé d'un truc à l'autre. Et puis quand on a eu les 11 dizaines de titres, on les a enregistrés. Oui, le français, c'est notre langue d'expression, quoi. Donc c'est avec ça qu'on est voilà, le plus à l'aise. Là, pour, ce qui était intéressant dans ce projet-là, c'est qu'on a fait un travail... un retour sur notre langue, c'est-à-dire on a travaillé très concrètement toutes les prononciations. C'est ce qui nous a, ça, ça nous a pris du temps à le préparer. Mm-hmm. C'est pas comme si on connaissait pas toutes les chansons par cœur. Mm-hmm. Celles qu'on connaissait, on les connaissait souvent de façon phonétique. Donc bon, sans trop vraiment, bon, on n'était pas trop loin, mais quand même des fois on faisait un peu des trucs bizarroïdes, quoi, tu vois. Donc on a travaillé avec Rachid pendant des semaines pour déchiffrer au mot à mot. Des fois, on déchiffrait pendant des heures à l'écoute d'une cassette, parce que c'est pas évident, on a un enregistrement de mauvaise qualité de l'artiste qui bouffe un peu les mots, c'est enregistré dans les années 40, enfin, c'est pas évident. Donc, on appelle des gens, qu'est-ce qu'il dit là ? Les gens disent pas la même chose. Sur une phrase, des fois, tu peux avoir 3-4 versions différentes. Mais c'est la vie de la musique, c'est-à-dire qu'à cette époque-là, ils les jouaient et ils pouvaient enregistrer une première version avec 2 couplets, après continuer à les jouer dans les cabarets, les bars. Après, il a enregistré une deuxième version, il mettait 3 couplets. Enfin, tu peux arriver, tu as une version à 2, 3, 4, 5 couplets. Donc, puis des fois, il change une phrase. Donc voilà, c'est vrai que là, c'est la première fois qu'on a pris... et ça, ça nous a pris plusieurs semaines, enfin, 8 à 10 semaines, pour faire le travail de déchiffrage des phrases, parce qu'on tenait absolument à le faire de manière... Au niveau du sens, on tenait à faire le texte de manière impeccable, compréhensible, même avec notre accent toulousain, qui d'ailleurs est bien là, même en kabyle et en arabe. Donc voilà.
Ouais. Et alors, du coup, peut-être pas forcément lié directement à la langue, mais pourquoi avoir choisi aussi des chansons en arabe algérien ? Pourquoi avoir pris les deux et pas seulement le kabyle ?
Bon, parce que on est aussi algérois d'origine, et qu'on a aussi grandi ici, entouré de gens de toute région. Donc beaucoup d'arabophones, donc on a un rapport aussi à l'arabe qui fait partie de cette histoire là donc pour nous c'était tout à fait normal et naturel. On s'est même pas posé la question, on s'est dit on fait pas un disque de chansons kabyle. Il se trouve qu'il y en a quand même 70% 80%, mais ça s'explique aussi par l'histoire de migration réellement, quoi. Ça s'explique réellement parce qu'il y a eu une migration kabyle beaucoup plus forte et une expression artistique kabyle beaucoup plus forte que l'expression arabophone en France, quoi. Mm-hmm. Mais il y a quand même des artistes qui l'ont fait, comme Dahmal Harachi, comme Mazouni, comme il y en avait d'autres, mais qui étaient plus variété ou plus, mm-hmm. Toutes sortes d'expressions, quoi. Mais, donc oui, pour nous qui des chansons en algérien, en arabe algérien, c'est important.
Comment vous prenez ça, votre famille, vos parents, cette démarche que vous avez aujourd'hui?
Il y a un grand sentiment qui dépasse, qui dépasse juste le sentiment de fierté de son fils, parce qu'ils ont eu déjà beaucoup de fierté dans notre réussite, dans nos vies, quoi. Musical ou autre, parce que l'on a un frère et une sœur qui font pas du tout de musique. Et je crois que c'est vraiment un ressenti très fort, c'est vraiment cette idée qu'ils nous ont transmis, ils ont réussi à nous transmettre ça, cette idée-là, quoi, leur a fait beaucoup de bien, je pense. Et je l'ai vraiment ressenti comme ça. Mm-hmm. Une grande fierté à reconnaître tous les titres, une grande fierté à nous dire ce qui va pas. Ouais, un truc vraiment particulier, quoi. Je pense que c'est un grand bonheur de nous avoir transmis ça et d'avoir ce sentiment qu'ils nous ont transmis ça, ces grands artistes, et que c'est grâce à eux si aujourd'hui en tant que musicien on peut rayonner. Voilà, et c'était magnifique. Hein. Notre père, il écoutait toutes les chansons et il avait un stress de se dire est-ce que je la connais ou je la connais pas. Et au bout de deux secondes, il reconnaissait, il a tout reconnu et il était très très content de ça. C'est vrai que la transmission, c'est quelque chose de très simple et en même temps qu'il faut absolument définir et réfléchir. Parce que moi, je le vois dans l'idée qu'à un moment donné, on reçoit des choses, on reçoit des éléments. Qui sont en nous, qui nous aident à nous construire dans notre quête d'identité, et qu'on sait très bien individuellement quels sont les éléments équilibrants et qu'on doit les choisir, les discerner pour les transmettre à un moment donné à nos enfants, quoi. Enfin, ou aux enfants des autres, je veux dire aux enfants au sens large, et enfin, qu'on doit transmettre absolument à partir d'un certain, je crois qu'on se pose la question peut-être à un certain âge, quoi, quand même. Enfin, pour moi, j'ai 40 ans, je ne suis pas vieux non plus, mais ça y est, quoi, je rentre dans une phase. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, cette idée d'être père, peut-être un déclic à un moment donné, parce que, voilà, aujourd'hui, on peut se tourner vers cette musique, la regarder en tant qu'adulte, l'approcher, l'embrasser, la vivre et la restituer, quoi. Et on sait que, parce qu'on sait d'emblée que dans notre... Quand on se souvient de ces ambiances-là qui ont construit notre personnalité, ça fait partie des choses positives et belles, valorisantes, rassurantes, sécurisantes. Tout ce dont on manque aujourd'hui dans une société individualiste, tu vois, enfin, bon, où l'insécurité n'est pas singulière, quoi. Elle est plurielle. Insécurités sont vécues tous les jours par tout le monde, et dans des milieux par même ceux qui volent, qui sont délinquants. C'est pas qu'une insécurité liée à la propriété privée. Enfin, là, c'est l'insécurité du travail, de la santé, de l'éducation. C'est terrible. Donc, voilà, pour moi, c'est ça, quoi. C'est pouvoir cerner ces points de vue. Voilà, c'est cerner ces choses positives dans la construction et puis les isoler et puis les restituer.
Toi, la transmission, ça va dans un sens ou ça peut aller dans les deux sens ?
Je pense que ça va dans les deux sens. Je pense que ça va dans les deux sens parce que je pense que des pays comme l'Algérie, par exemple, sont des pays très ouverts, en contact avec un autre monde depuis toujours. Enfin, le Maghreb en général, l'Afrique en général. Il y a cette notion de fête, donc ouverte aussi aux autres façons de vivre. Et donc c'est dans les deux sens. Générationnellement aussi, c'est dans les deux sens. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je pense que mes enfants vont beaucoup m'apprendre sur leur façon de fonctionner dans la France qui est la leur, quoi, qui n'est déjà plus la mienne, puisque l'identité bouge quelque part, quoi. Et voilà, alors après, je pense que ce mouvement-là, parce que là, il s'agit de mouvement, dans l'idée de transmission, comme dans l'idée d'identité, il y a cette idée de mouvement. Pour moi, le mouvement, il n'est pas à sens unique, il n'est même pas qu'à double sens, il est universel, il tourne dans tous les sens. Donc j'espère que mes enfants auront l'ouverture, vers moi, vers d'autres gens, vers d'autres cultures, vers d'autres, et qu'au fur et à mesure, ils deviendront des gens construits en dehors de clichés d'appartenance, quoi. Avec une partie de leur identité assumée complètement et pas fantasmée, encore une fois, voilà. Et ça, il faut des éléments, quoi. C'est des éléments, quand on dit cultiver, c'est ça qu'on dit. Quand on dit cultiver, c'est noble. C'est pour ça que l'amalgame, encore une fois, avec l'instruction, il est terrible. Parce que cultiver, c'est énorme, c'est fort. Et ça rend solide. Parce que, voilà, nos parents étaient cultivés, sont cultivés. Donc, ils ont été solides. Il faut être solide pour vivre ce qu'ils ont vécu. faut être solide pour vivre l'exil, pour vivre l'immigration, pour vivre tout ça. Et c'est vrai que en renvoyant ces chansons-là, on a aussi envie de dire que voilà, que l'immigration, c'est pas que du voilà, c'est pas que du grattage, c'est pas que juste on vient vous bouffer le pain. On peut regarder les choses simplement et dire non, c'est du courage. Simplement, quoi, en disant bien quand même.
Mais c'est pas du tout ce qu'on entend aujourd'hui. Hein.
C'est pas du tout ce qu'on entend aujourd'hui, on est très loin de ça. Ouais. Tu vois, donc à un moment donné, on se dit qu'avec ce genre de projet, on a envie d'appuyer le sens par rapport à ça, de dire mais regardez, la preuve est là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça les rend créatifs, pleins d'expression, pleins de beauté, pleins d'émotion, donc bien, bien vivants, malgré l'adversité, le choix difficile. Voilà, et si ça nous donne l'opportunité de parler et de dire que oui, n'oubliez pas que voilà, ils sont pas partis parce que bah, avec plaisir, ils ont pas quitté leur famille, leurs amis avec plaisir. Et enfin, aujourd'hui encore, c'est la même chose, je dirais. On le fait parce qu'on n'a pas le choix. Donc voilà, c'est, si on peut appuyer ce genre de choses-là, ça vaut le coup, quoi. Alors on ne dit pas qu'on va tout changer, mais enfin. On lâchera jamais l'affaire. C'est ça la chanson de Tess Madies, la chanson où il parle de. Il veut manquer quoi. Où il parle de. Il fait parler des gens de là-bas qui disent reviens nous voir, le pays. Le quartier de ce languit de toi et tout ça. Mais c'est pas là. C'est lui qui l'écrit, quoi. Donc ça vraiment, il y a le double sentiment, la profondeur, c'est énorme.
C'est, ouais, c'est plus fort que quand il parle simplement de son manque à lui, en fait.
Ouais.
Une mise à la place des autres.
Ouais. C'est-à-dire que ça donne toute la problématique. Il y a l'inquiétude de savoir s'il va manquer. C'est-à-dire, est-ce que je leur manque? C'est-à-dire qu'il a son exil et à un moment donné, dans son exil, il se dit, mais est-ce que j'espère leur manquer, quoi? Parce que sinon, là, c'est encore pire.
Il y a ça, mais il y a aussi quand tu manques par nécessité à tes proches. Avoir un sentiment de culpabilité
ou de... Oui, il y a ça dedans, complètement. C'est la culpabilité de dire après tout, c'est parce que si je leur manque pas, c'est bien fait pour moi. Enfin, oui, à côté, c'est. J'espère ne pas avoir apporté ce poids-là en plus. Mais il le dit de la plus belle des façons, puisqu'il fait parler les gens, donc ça fait parler la tierce personne. Il y a toute la finesse de l'expression de nos parents, de cette culture-là. Qui forcément ne s'exprime pas de la même manière que dans la culture française. Il y a des tas de choses qui se disent différemment. On utilise souvent la tierce personne pour évoquer un propos. Il y a des façons de dire les choses, voilà, qui sont vraiment propres à la culture algérienne en particulier, quoi. Ça, c'est intéressant. Ça peut aider à mieux comprendre beaucoup de choses, quoi. Parce que c'est des chansons de France, donc c'est aussi des histoires de Français, quoi. Donc bon, il y a un moment donné, on ne peut pas faire l'économie de ça, parce que sinon on ne va rien comprendre, et personne ne comprendra rien, et là ça sera... bon, il y aura toujours des réactionnaires et des gens qui... voilà, comme Sarkozy, c'est ces gens-là qui jouent sur les symboles, qui ont juste compris qu'il fallait piller les symboles pour être élu, quoi. Donc il ne s'agit pas de ça, quoi.
Cette mémoire de l'immigration...
Ben oui, parce que il y a une évolution et il y a des, comment dire, il y a des parallèles réels, quoi. Bon. Le parallèle évident, le cadre évident dans lequel ça se recoupe, c'est le rapport dominant-dominé, quoi. C'est-à-dire que c'est un vrai combat qu'il faut mener contre ce traumatisme-là, laissé par la domination, par le sentiment d'être dominé. C'est des traumatismes transmis réellement de génération en génération qui ne pourront se régler que par la vérité, quoi. Par les choses dites, quoi. Par un moment donné, un minimum de reconnaissance de cette souffrance-là. Donc, C'est ça qui est terrible aujourd'hui finalement. Avant on disait travailleur immigré. Ça mettait au moins dans une catégorie sociale. Tu vois, défini là, c'est immigré, c'est-à-dire que c'est une espèce de corbeau sur la ville qui ont, tu vois, ou de pie, tu vois, qui sont. Toi, c'est l'évolution de la société, le travail n'a plus la même place et tout ça et tout. Mais voilà, aujourd'hui on ne dit plus travailleur, on dit même plus travailleur immigré, on dit immigré. Donc, ou on dit sans papier, ou on dit clandestin, ou ce genre de choses-là. Donc, oui, c'était des ouvriers, oui, c'était des gens dominés. Mais en faisant ce choix-là, ils ont opté pour un changement de clivage, quoi. Et nous, c'est ce qu'on est, on en est la preuve. C'est pas le cas de tout le monde, mais c'est le cas de quand même pas mal. On en est la preuve. Aujourd'hui, c'est fini. C'est ça qu'on a envie de dire tous les jours. Aujourd'hui, c'est fini. Nous, on est là, on est capable de prendre, d'assumer toute cette histoire-là, de la poser, de dire à quel point ce qu'elle nous amène, ce qu'elle est pour nous, comment on est capable de porter notre identité toulousaine. Alors là, mieux que n'importe quel Lillois ou Lyonnais. Il n'y a pas de problème avec ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est dans un truc, nous, on ne voit pas où est le problème de ce point de vue-là. Enfin, on voit pas. On voit ce que les gens subissent et vivent, le problème subi par les gens qui vivent ces discriminations, quoi. Mais pour nous, c'est une évidence, quoi. Il y a un côté inexorable là-dedans, donc il fait qu'à un moment donné, on dit, voilà. Et c'est peut-être l'évolution de ce parallèle par rapport à la société dans le rapport aux ouvriers, c'est peut-être une réalité aussi. Tu vois, c'est-à-dire qu'il faut absolument que lutter contre cette domination voilà, permanente. Bon, on n'en parle plus non plus. On dit travailleur. Un peu plus. Quand on dit pas chômeur. Mais oui, mais c'est l'évolution de la société aussi. Donc on grandit dans ces trucs-là. On sait très bien que c'est différent. Nous, moi j'ai grandi. Nous on a grandi élevé par un père qui partait avec la gamelle tous les matins au chantier. Bon, mais je connais des gamins qui ont 25 ans aujourd'hui ou 20 ans, qui n'ont jamais vu leur père travailler. Enfin, et ça, c'est pas la responsabilité des parents quand même. Donc, tu vois, il y a une espèce de stigmatisation permanente qui se fait contre laquelle on se bat, qui est de dire, à un moment donné, c'est la faute des parents. Et c'est particulièrement dégueulasse de dire ça. Parce que si on dit, ou alors, si on dit ça, on dit que c'est notre faute à nous tous, les adultes, quoi, à ce moment-là. Là, vu comme ça, d'accord, mais non, là, c'est pas ça qu'on dit. La faute des parents, la faute des parents. Vis ce qu'il vit, et après, tu pourras parler, et tu pourras dire si t'es capable de le faire. Voilà. Donc voilà, c'est vrai que la quête de la mémoire pour nous, elle se double cette histoire de fils de prolo, quoi, évidemment. Bon, genre de super prolo, c'est un peu ça, quoi, puisque l'identité, l'arabité, enfin, ou le côté différent crée le supplément de difficulté, quoi, les réels, quoi. Double boulet aux chevilles, quoi. Ouais, dans la cave du Babel.
Dans la cave du Babel Café, qui est fort animée. Alors pourquoi vous jouez dans des cafés comme ça de cette taille, enfin des petits cafés, ouais, de quartier, en fait. Pourquoi?
Mais parce que d'abord, on voulait repasser par ces endroits qui ont été des. C'est ces endroits-là qui ont permis la création de cette musique, qui ont donné la possibilité à ces artistes de s'exprimer. Parce qu'évidemment, à l'époque où ils ont fait cette musique-là, ils n'étaient pas admis dans des réseaux d'industrie musicale classique. Donc, c'est ces petits endroits qui ont fait vivre ces musiques-là. Donc, on fait un petit retour aux sources de ce point de vue-là, qui nous semble donner un peu plus de sens encore à la dimension artistique du projet, quoi. Donc, ça nous semble. Ça nous plaît bien l'idée de repasser par ces endroits où éventuellement ils seraient passés, où ils auraient pu passer, c'est-à-dire tous ces bistrots-là. Et puis c'est une façon de saluer ce qui en France reste la vraie dimension populaire, quoi, la dimension de transmission populaire, qui a tendance à disparaître aussi. Donc c'est une façon de dire à un moment donné, bon, mais le bistrot, c'est le bistrot, quoi. C'est encore l'endroit où on peut entendre des choses et voir des choses. Et malheureusement, dans la majorité des centres-villes français, c'est en voie de disparition. Parce que le centre-ville devient le lieu bourgeois où on n'accepte pas certains sons musicaux, quoi, voilà. Que tu peux rien faire sans le sens du combat, par exemple. Ben, ça a l'envie d'y arriver, quoi. Ça a l'envie d'en être. Tu vois, alors là, ça c'est encore... Ouais, la Niaque a l'envie d'en être, c'est-à-dire à sa façon, hein, on n'est pas obligé d'être comme ça acharné, hein, chacun est différent, mais c'est l'envie d'en être, j'ai envie de participer à des choses, j'ai envie de faire, j'ai envie d'apprendre, j'ai envie d'aller vers ça, ou vers autre chose. Donc, il faut des lieux de partage absolument, quoi.
Nous étions, au début des années 80, quelques milliers, puis quelques dizaines de milliers d'enfants issus de l'immigration, à tout à coup éclore de nos ruches en béton pour aller s'humecter à Paris du miel de la République. Nous proclamions alors notre appartenance à la mère République. Keffiyeh et drapeau tricolore au vent, on s'honorait du triptyque républicain et d'une appartenance aux deux bords d'une mer plate qui vit fuir, partir et revenir nombre de pionniers qui, guitare à l'épaule ou simple baluchon, cherchaient de part et d'autre un Eldorado sans or au flanc de la montagne. Enfants de France, nous l'aimions sans équivoque. Malgré les blessures de la guerre sans nom, c'est dans son aile tiède que se sont chauffés nos élans d'en découdre avec toutes les formes de discrimination. Dans ses cours de récré et dans ses livres, nos têtes frisées se remplissaient des vers de la fontaine. Dans ses buissons, ses terrains de foot aux genoux mercurochromés, ses villages, nos enfances écartaient des sourires innocents. Tels des chênes géants, on s'est enraciné à l'eau de toutes les égalités, aux airs de justice. On s'est ferré au sol d'une terre, ne demandant qu'à chérir la sève de ses plantes, d'où qu'elle soit. Bien plus qu'on ne le voulait, on s'est fait descendant d'ancêtres aux cheveux blonds, dessinés pour nous plaire dans les livres d'histoire. Et jamais, au grand jamais, il nous vint à l'idée de ne pas en vouloir. Mais tout ne fut pas en rire et chant d'anniversaire. Les balles ont bel et bien fusé et les corps mutilés doutent encore qu'il faille absolument pardonner. Pendant que les champs s'agrandissaient de tombes au lieu de blé, les vieux courbaient le dos, mais les fils apprenaient. De Lille à Bab-el-Oued, de Toulouse à Oran, Hugo, Voltaire et Charles réclamaient pour chaque peuple le droit et la dignité. Un même chant s'élevait dans les classes du bled comme dans celles du Midi pyrénéen. Liberté. Ainsi, sous la bannière aux trois couleurs, deux peuples s'affrontaient sous un même idéal pour une terre, l'Algérie. Étrange contradiction que d'aspirer à l'universalité sans qu'elle fût assumée jusqu'au bout. C'est chargé de cette mélancolie, mais aussi d'espoir, qu'est né un genre de chanson dite « chanson de l'immigration ». Ni tout à fait arabe, ni tout à fait kabyle, mais peut-être tout à fait française. Ce genre s'est éclos dans les années 40 avec pour unique thème, poussé au paroxysme, l'exil, l'orba, et comme lieu d'expression, les faubourgs de Paris. Il a mis en lumière un blues urbain, comme un village raccroché à la grande ville par la voie ferrée. Ils étaient maçons, porteurs d'eau, voyous, souteneurs de Maltaise, mais aimaient la musique passionnément. De Piaf aux compagnons, en passant par l'Égyptien Abdel Halim, il picorait des sons des bords de la mer bleue, mais sans appartenir à aucun absolument. Si elle est méconnue par les plus jeunes, elle forme en vérité un folklore d'ici, une langue d'ici, berbéro-parisienne ou franc-arabe, où l'on entend aussi bien les noms d'Aubervilliers, Barbès ou La Chapelle que ceux de Alger et Oran. Mousse et Hakim se font le temps de 13 titres, les héritiers frondeurs, mélancoliques et pleins d'humour de cette époque révolue. Ils ont rouvert ce livre aux pages d'eau salée, comme pour rappeler à la France un bout de son patrimoine et de son histoire. Pour rappeler que la chanson française, il fut un temps, s'appelait aussi Dahman, Mazouni ou Slimane. Merci les gars. Majid Cherfi. Et voilà, c'était un sujet donc autour d'Origine Contrôlée, le festival, avec l'interview de Salah Amokran, donc du Tacti collectif, ça y est. Donc on avait rencontré à Toulouse au cours du festival de cette année, place Arnaud Bernard, et aussi une interview de Mustapha Amokran, Mousse, au Babel Café. Donc c'était à Paris au mois de septembre, juste avant une AOC, c'est-à-dire un AOC, un apéro d'Origine Contrôlée. Donc voilà, c'est ce qu'ils font dans les bars. C'est très sympathique si vous avez l'occasion de les voir. Voilà, ça vaut le coup. Donc plus d'informations pour voir le site de Tacti Collectif. Vous tapez Tacti Collectif, vous trouvez facilement sur Internet. Origine Contrôlée, il y a plein de blogs. Il y a le site de Moussa Hakim. Il y a plein de choses pour aller plus loin. Et en tout cas, on mettra tout ça sur notre site à nous, qui est très beau et qui est bientôt mis à jour. Et donc c'est www.loldf.org. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire, à part qu'on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. On est rediffusé, là on est mercredi en direct, mais vous pouvez nous réécouter vendredi de 12h30 à 14h. Et puis on se retrouve mercredi prochain, même heure, même endroit. Et là on vous laisse tout de suite avec Claudie. Et peut-être Claudia, avec les échos du Capricorne, dans quelques instants.
On approche, Chico, attention, enclenche les rétrofusées.